Bonjour et bienvenue à 10h TU midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, intense activité diplomatique à Istanbul sur le conflit ukrainien. C'est sous médiation turque se tiennent les premières négociations directes depuis 2022 entre Russes et Ukrainiens. Le président Zelensky est sur place, mais pas Vladimir Poutine qui a dépêché une délégation de second rang. Donald Trump, lui, achève à Abu Dhabi sa tournée dans le golfe Persique. À propos de la situation à Gaza, le président américain veut, dit-il, en finir avec une guerre qui affame trop de gens. Dans ce journal aussi, la réorganisation de l'armée russe en France qui, pour prendre la présidence du Parti des Républicains, c'est l'ultime jour de campagne pour les deux candidats, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Après le journal, 8 milliards de voisins en cette journée contre l'homophobie en compagnie de Laurence Garcia. Depuis octobre 2023 et d'après le ministère de la Santé de Gaza, au moins 53 000 Palestiniens ont été tués. De nombreuses victimes sont encore sous les décombres après toutes les frappes menées par l'armée israélienne cette semaine. Ainsi, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le camp de Jabalia, reportage de Rami Al-Megari et d'Abla Junaidi.
À Jabalia, les tractopelles poussent les décombres des maisons détruites. Le camp de réfugiés a vu disparaître plusieurs membres des familles Al-Najjar, Souhaylem, Moukbel et Al-Koutnan dans la nuit de mardi à mercredi. Ibrahim Salah était un voisin des Moukbel. Sa maison a été en partie touchée.
Nous sommes sains et saufs. On a craint d'être ensevelis, nous aussi. Heureusement, malgré la terreur, les gens nous ont aidés. Les voisins sont venus ensemble et nous ont secourus. Ils ont aussi aidé à sortir les morts.
Plusieurs habitants ont parlé de ceintures de feu déferlant sur le camp. Ertima Djibril décrit cette nuit d'horreur.
On dormait tous paisiblement. Je vous jure, il était 1h du matin. Tout le monde dormait. Et tout à coup, les bombardements sont arrivés de partout. Partout la mort. Et les secours ne sont arrivés qu'après 3 longues heures. Arrivé à l'hôpital, impossible de se faire soigner. On vous met par terre. J'ai eu 8 points de suture après 2 heures à attendre.
Ces attaques sur Jabalia, les plus dévastatrices cette nuit-là, ont essentiellement fait des victimes civiles, dont beaucoup de femmes et d'enfants.
Abla Junaidi, la situation dramatique des Palestiniens à Gaza a été commentée par Donald Trump qui donne à présent l'impression de prendre ses distances vis-à-vis d'Israël. Les habitants sont affamés, nous allons faire en sorte que cela soit réglé, a-t-il dit sans autre précision à Abu Dhabi. Le président américain achève aux Émirats Arabes Unis sa tournée dans le golfe Persique, son premier déplacement international majeur depuis qu'il est de retour à la Maison Blanche. Sur le plan des affaires, la moisson est riche. Le président américain s'est vu promettre à Abu Dhabi quelques 1400 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans. Les accords signés culminent à des niveaux records dans l'aéronautique ou bien encore les hydrocarbures. À l'heure du bilan politique, que faut-il retenir de cette tournée? Ange Fabre a interrogé Karim Emile Bitar, spécialiste de la politique américaine au Moyen-Orient.
Donald Trump, comme lors de son premier mandat, a effectué sa première visite officielle en Arabie Saoudite. Cela montre également que le centre de gravité du monde arabe s'est déplacé vers le Golfe. Il y a une trentaine, quarantaine d'années, c'était l'Égypte qui était le centre de gravité. Pour Donald Trump, la politique et l'économie sont indissociables du family business. On est à la limite de l'enrichissement personnel, mais la politique a quand même joué un rôle avec cette poignée de main inattendu et spectaculaire avec le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmad al-Sharaa, qui il y a à peine 6 mois était considéré par les États-Unis comme étant un terroriste dont la tête était mise à prix. Dans l'absolu, c'est une excellente nouvelle pour la Syrie, mais les obstacles demeurent nombreux et il semblerait, comme d'habitude, que ce soit une décision que Trump ait prise individuellement sans forcément en avoir mesuré l'ensemble des conséquences.
Karim Emile Bitar, spécialiste de la politique américaine au Moyen-Orient. Je le disais pour commencer, c'est une première depuis 2022 et alors que sur le terrain la guerre continue, Russes et Ukrainiens se reparlent. Certes, les attentes sont minimes compte tenu notamment de l'absence de Vladimir Poutine. La délégation russe à Istanbul est considérée comme une délégation de second rang. Poutine a fait une erreur, considère le chef de l'OTAN, alors que le chef de la diplomatie française lui critique une politique ligue de la chaise vide. Donc, délégations russes et ukrainiennes ont entamé leurs discussions ce matin à Istanbul sous médiation turque. Lui aussi présent à Istanbul, le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il a déclaré de ne pas nourrir de grandes attentes concernant cette réunion russo-ukrainienne. De son côté, Donald Trump estime que rien ne se passera tant que Poutine et lui ne seront pas ensemble. Pendant que des diplomates de second rang négocient, Vladimir Poutine, lui, réorganise son armée. Il vient de limoger le commandant des forces terrestres, Oleg Salyukov. Ce général devient secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, organe consultatif important qui se réunit régulièrement autour de Vladimir Poutine. Ce n'est pas encore officiel, mais d'après plusieurs sources, son successeur est le général Andriy Mordichev, qui a notamment commandé la bataille de Mariupol. Les précisions de notre correspondante Anissa El-Jabri.
La dernière photo de Oleg Salyukov date du 9 mai sur la place Rouge. En tant que commandant des forces terrestres, il dirigeait le défilé. Aucune raison officielle n'a été donnée à son départ, mais le journal Commerçant a évoqué une limite d'âge. Oleg Salyukov aura 70 ans mercredi prochain. Celui qui le remplacerait est un des plus jeunes à ce grade de l'histoire militaire russe à 49 ans. Le général Andriy Mordichev est une des figures de la guerre en Ukraine. Commandant du groupe Centre, il a dirigé la bataille de Mariupol, la prise d'Azovstal, la bataille d'Avdivka, plus récemment l'avancée des forces russes vers Pokrovsk. En mars 2022, l'Ukraine avait annoncé l'avoir tué. Andriy Mordichev est en tout cas un dur. À l'été 2023, il déclarait considérer l'invasion de l'Ukraine comme, je cite, un simple tremplin vers un nouveau conflit en Europe de l'Est. Son successeur serait, selon les réseaux sociaux russes, une autre figure de l'armée russe, Valery Solotchuk, qui a dirigé les troupes tout le long de la bataille de Koursk. Une réorganisation, si elle est bien confirmée, qui interroge, du moins sur son timing, à quelques heures des premiers pourparlers directs Russie-Ukraine. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
C'est à Luanda, capitale de l'Angola, que se trouve maintenant Ali Bongo, l'ancien président du Gabon. L'ancien président déchu et sa famille ont été libérés, sont arrivés à Luanda, annonce la présidence angolaise sur les réseaux sociaux. Au Tchad, la disparition de l'ancien premier ministre Succès Masra, maintenant figure de l'opposition et critique des autorités au pouvoir. Son parti, les transformateurs, annonce que Succès Masra a été enlevé tôt ce matin par des hommes en uniforme à son domicile. Le parquet tchadien a confirmé cette arrestation par la police judiciaire et annoncé une conférence de presse dans la journée. L'ONU demande au Mali d'abroger le décret dissolvant les partis politiques par la voix du haut commissaire aux droits de l'homme. Elle l'appelle aussi à rétablir pleinement les droits politiques dans le pays. Dans l'actualité politique en France, qui pour prendre la présidence du parti de droite, les Républicains. C'est aujourd'hui l'ultime jour de campagne pour les deux candidats, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Les plus de 120 000 adhérents les départageront dimanche. Laurent Wauquiez, patron des députés LR, sera ce soir à Lyon. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lui effectue sa dernière réunion à Nîmes. En matière de santé publique, cette question, et si le chikungunya et la dengue devenaient endémiques en Europe et plus seulement dans les régions tropicales? On estime à quelques 4 milliards le nombre de personnes exposées au risque. Pour la première fois, une étude publiée cette semaine analyse les liens entre le risque d'épidémie, la démographie et le réchauffement climatique. Elissar Mokadim.
L'augmentation des températures accélère le développement des moustiques tigres et favorise leur survie. Résultat, cet insecte progresse vers le nord de l'Europe depuis son arrivée sur le continent en 1990. La chaleur augmente aussi la vitesse de multiplication du virus dans l'insecte. Depuis 2010, la fréquence et l'ampleur des foyers de dengue et de chikungunya n'ont fait qu'augmenter. Rien qu'en 2024, l'Europe a compté 304 cas de dengue. C'est plus que tous les cas recensés sur les 15 années précédentes. Des foyers sont apparus en France, en Espagne, en Italie et en Croatie. D'après les chercheurs, à chaque degré supplémentaire, surtout pendant l'été, le risque d'épidémie augmente nettement. Mais il y a d'autres facteurs, l'urbanisation et le déplacement de la population. Si rien ne change, en 2060, le risque d'épidémie pourrait être 5 fois plus élevé en Europe. Et l'étude présente des limites. Les régions où les dépenses de santé sont moins élevées détectent moins de cas de contamination. Pour réduire les risques, les chercheurs appellent à renforcer la surveillance, les systèmes d'alerte et la lutte contre ce moustique.
C'était Elissar Mokadim, enfin mot de tennis, au programme du tournoi de Rome. Aujourd'hui, les demi-finales entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti et entre Yannick Sinner et Tommy Paul, l'américain. Deux Italiens donc pourraient se retrouver en finale. À suivre, 8 milliards de voisins à la veille de la journée contre l'homophobie. C'est avec Laurence Garcia.